Et après les actualités, on passe à la culture. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa.
Bonsoir Rémi.
C'est parti.
Les paupères, les rabelles, les berlioz, les bons passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Sartex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une valeur.
C'est le moment de parler de culture, de théâtre et d'expo plus particulièrement, car Sarah et moi-même avons papillonné entre Lyon et Paris durant ces vacances et nous vous ramenons une petite sélection de notre mouture. D'abord, le théâtre. Sarah, tu as pu aller voir Mon Ange à Paris. C'était comment ?
Alors, Mon Ange, par où commencer ? Vous noctambulez ? Oui, parce que le terme existe puisque je l'ai inventé. Près de Terne, et l'écriteau sur le kiosque de la petite place Fleurie attire votre attention. Billets pour le théâtre du jour à moitié prix. Et vous voilà embarqué dans je ne sais quelle aventure, la vendeuse vous ayant vivement recommandé cette pièce au nom très doux. Doux. Eh bien, c'est à voir. Car Mon Ange, on le découvre très vite, c'est le personnage principal de la pièce, et son père l'appelait ainsi, pour lui apprendre l'importance des arbres et des ancêtres, c'est bien joli, ou bien pour lui enjoindre à tirer dans des canettes avec un fusil assez méchant. Ce qui est moins doux. Et pourquoi s'entraîner ? Dit la jeune pacifiste. Je préfère le tribunal de la justice à la scène de la guerre, pour reprendre le texte. Mon ange, rétorque papa, tu ne veux pas la guerre, mais si Daesh te fait la guerre, tu n'as pas le choix. Et voilà, Mon Ange, c'est l'itinéraire géographique et mental d'une jeune femme contrainte à porter les armes pour lutter contre les terroristes qui ravagent sa ferme, sa famille, sa jeunesse et qui ne font pas forcément du bien à son papa.
Tu m'avais parlé, Sarah, d'une sorte de violence dès les premières minutes. Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, alors il faut absolument que je vous parle des impressions du début, parce que c'est assez spectaculaire. De mon point de vue, pas du tout renseignée et charmée par une agréable soirée, le premier coup de feu a été un choc. D'abord, il y a une fille qui arrive, elle crache ses mots, ses poings sont durement fermés, elle a la voix rauque et les épaules rétractées des animaux en détresse. Vêtue de noir, cheveux tirés en arrière, elle porte une arme, un fusil. J'ai oublié le nom du fusil. Mais ça fait très, très peur, en fait. Et la scène est sombre. Alors mon amie ne se sentait pas très bien. Et je comprends. Je n'étais pas rassurée non plus, avec ces bruits affreux qui bourdonnaient partout, cette fumée suffocante qui jaillissait à chaque coup de mitraille. La mitraille. Eh bien, la mitraille, elle dialogue avec Lina et l'Arabie. Elle lui répond, elle envoie des claques. Et nous, pauvres oisifs plumitifs parisiens, nous sursautons et nous avons presque envie de fuir cette salle devenue Syrie en courant.
On dirait que l'intégration du spectateur dans cet univers de guerre est totale.
Alors oui et non. Disons que l'on est vraiment plongé dans la violence. Elle frissonne jusqu'à l'autre bout de la salle, elle nous hante après que les lumières se sont éteintes et que la comédienne sourit. Premier sourire chaleureux de Lina et l'Arabie, c'est quand elle salue. Et il y a une scène qui était horrible et m'a révoltée d'ailleurs parce que c'est une banalité pour des milliers d'êtres humains. Pendant une très longue minute, mon ange tenait la salle en joue avec son fusil. Et c'est pas très agréable. Une expérience à vivre en tout cas. Et c'est peut-être cette menace-là, où l'on se demande jusqu'où va aller mon ange, jusqu'où va aller cette fille écorchée et cynique qui nous remet les pieds sur terre. Les études de droit, bah, tout le monde n'y a pas droit. Je dis cela parce que la protagoniste rêvait avocate avant que Daesh ne la fasse guerrière. Et cependant, le spectateur n'est pas complètement intégré à l'univers, à l'histoire, en ce que la pièce est incroyablement railleuse. Mon ange met tout à distance, par nécessité. Dans un monde où les villes où les villes deviennent des charniers et où les femmes sont vendues comme des esclaves sexuelles et où les arbres sacrés sont brûlés, bah, c'est l'humour noir et la dérision qui sont les seules armes contre la folie. Et si la pièce est d'une violence à couper le souffle, le dramaturge Henry Naylor nous réserve quelques moments de détente où l'on rit franchement. Par exemple, le père de mon ange qui chante Beyoncé pour faire plaisir à sa fille avec sa grosse voix et ses muscles assez épais, c'était quand même hilarant.
Mais tu me disais qu'on ne le voyait pas, le monsieur sur scène, c'est ça ?
Oui, alors j'avais oublié de préciser ce détail ultra important. En fait, Lina et l'Arabie est seule sur les tréteaux tout au long de la pièce. Et c'est une performance remarquable pour une si jeune comédienne, qui d'ailleurs a été applaudie au Festival d'Avignon. C'est mon ange qui raconte son histoire, imitant vaguement ses proches ou ses ennemis. Donc il y a des changements de voix, de ton, de posture qui font comprendre qu'elle nous rapporte les paroles d'un autre. Néanmoins, s'il y a quelqu'un qui parle, c'est bien mon ange et personne d'autre. Et même quand elle s'adresse au spectateur, parce que nous, on n'a plus de voix, on est à bout de souffle pour faire une petite private joke.
À voir donc, et c'est jusqu'au 30 décembre au théâtre Tristan Bernard à Paris.
Oui, et dans une Europe qui se pose pas mal de questions sur l'immigration, c'est plutôt intéressant pour les pacifistes et philosophes qui critiquent la violence pour vaincre la violence, et défendre les valeurs du droit, allez-y, vous aurez une belle surprise. Et enfin, pour ceux qui veulent tester leur sang-froid, une épreuve inoubliable que vous offrent Lina El Arabi et le metteur en scène Jérémy Lipman. Alors, au sujet des questions politiques, je t'ai croisée hier au TNP, Léa.
Oui, pour voir Je suis Fassbinder, une pièce de Fauke Richter, mise en scène par lui-même et Stanislas Nordet. Alors, Fassbinder, c'est qui ? C'est un metteur en scène et un réalisateur allemand dont la production couvre grosso modo les années 70. Et donc, à cette époque, c'est aussi un regard sur l'Allemagne post-fasciste, en particulier dans un film qui a pas mal d'importance dans la pièce. C'est un film qui fait en 77, qui s'appelle L'Allemagne en automne. Avec cette pièce, son regard se retrouve projeté en 2017. Et il en vient à demander à contre-temps où est-ce qu'on est finalement depuis les années 30, comment on se retrouve dans une Allemagne et une France tentées par la xénophobie et toujours engoncées dans des structures patriarcales. Alors Sarah, est-ce que tu nous donnerais ton avis sur cette pièce qu'on a vue hier ?
Oui, mais très, très rapidement. Moi, l'aspect politique, en fait, c'était pas forcément ce qui m'avait le plus intéressé dans cette pièce. En revanche, je trouve que le côté relationnel entre les personnages qui étaient tous névrosés et qui faisaient des actes assez inoubliables, eh bien, ça, c'était important.
On a un hélicoptère assez... enfin, très, très beau.
Oui, oui, très, très beau. Hein. Un beau Brésilien qui se déshabille. C'est sympathique.
Oui, oui, oui.
Et toi, Léa ?
Oh là, vous voilà. En perdez vos mots, là.
Alors, c'est un dispositif, oui, où la, comme tu disais, ouais, la pièce, c'est une sorte de scanner des êtres humains, enfin, de certains êtres humains à un moment T, et donc on attrape des lambeaux de doutes politiques, de souffrances existentielles, de douleurs amoureuses. C'est des cris. Enfin,
c'est vrai qu'avec un hélicoptère.
Non, mais il y a ce côté drôle dit comme ça, mais j'en étais au moment un peu... Bon, ce sont des cris, et c'est des cris dans une langue qu'en tout cas, moi, j'avais jamais entendue. Et je crois qu'ils tapent dans le mille. Des fois, c'est vraiment très juste. Faut aussi dire que cette pièce, elle est écrite de concert avec les comédiens, et on y sent que chacun s'y est un peu écorché. Après toute la partie politique, en effet, j'ai trouvé assez redondante et le discours sur le théâtre, je ne trouvais pas forcément non plus nécessaire. Mais quelle prouesse tout de même de réussir à entremêler ces voix différentes, grâce à la vidéo notamment, et à réveiller à partir d'une matière très politique toutes ces strates individuelles et réussir à tirer leur fond pré-réflexif, pulsionnel, pétri de frustration et de morbidité. Bon, maintenant qu'on a pas mal parlé de théâtre, on va peut-être passer aux expositions.
Yeah. Maintenant les expos et on retourne à Paris, c'est ça ?
Oui, Sarah, direction le musée de la chasse et de la nature. Alors ça peut surprendre, mais c'est un de mes musées préférés, je crois, que je visite assez régulièrement. Alors c'est un hôtel particulier du Marais qui abrite évidemment des bestioles empaillées, mais aussi des objets d'art contemporain, des modèles de sciences naturelles, bref, tout ce qui peut retracer l'histoire des mœurs, mais surtout des mythes que l'homme a tissés autour de la nature. Ici, donc, pas de scission entre les domaines, c'est une approche très intuitive, sensorielle, immersive qui est développée. Donc, c'est pas un musée où on reste debout, c'est plutôt une sorte de grosse maison où on se blottit dans les canapés en se laissant imprégner par l'atmosphère. Et alors, quelle fut ma surprise dimanche, quand j'arrive dans ce musée d'ordinaire pas très fréquenté, et que je découvre une file immense devant pour aller à l'exposition temporaire. Bon, on aurait pu s'en douter, c'est l'expo de Sophie Kahl, qui a une certaine renommée maintenant. Pour ceux qui la connaîtraient pas, elle a cette particularité de faire de sa vie une œuvre. Et donc là, elle a déposé un peu partout, dans le musée, des œuvres, et à chaque fois, à côté, un cadre et quelques lignes qui évoquent un petit bout de sa vie. Donc c'est une nouvelle creusée dans son intimité, et elle s'approprie complètement ce lieu. Parce qu'en fait, à l'aune du thème de l'animal et de la chasse, on peut relire tout son passé familial et affectif. Et il y a en même temps une très grande mélancolie qui s'en dégage. Il y a par exemple une très belle statue blanche dans une matière presque translucide, et cette statue, elle pleure. Il y a vraiment de l'eau qui ruisselle à partir de ses paupières. Cette œuvre est entourée de défenses, de sangliers qui pourraient la protéger ou la menacer. Enfin, c'est un exemple comme un autre pour dire que les œuvres temporaires et permanentes se répondent parfaitement. Donc là, voilà, pour moi, Sophie Kahl, elle pousse vraiment la question de faire une exposition dans un musée qui abrite déjà une collection permanente.
Et tout ce monde, en fait, ça ne t'a pas gêné pour approcher une œuvre aussi intime ?
Mais justement, c'est un peu aussi à cela que je jauge la puissance de cette exposition et du musée qui l'abrite. C'est que la foule ne m'a pas empêchée d'avoir une expérience d'extrême proximité avec le propos de Sophie Calle. Bon, évidemment, je souhaite à nos auditeurs de visiter l'exposition le plus tranquillement possible.
Eh bien, super. Et dans ce cas, c'est jusqu'à quand ?
Elle dure jusqu'en février 2018 et c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Et alors, tu as pu aller à la Maison Rouge aussi ?
Oui, alors la Maison Rouge, bah, encore un lieu bien particulier. C'est une fondation qui a pu montrer beaucoup de choses avant qu'elle ne devienne labellisée entre guillemets par un marché de l'art. C'est aussi un lieu qui va fermer l'année prochaine. Alors cette exposition, je crois que c'est son avant-dernière. Elle s'appelle « Étrangers résidents ». C'est la collection privée d'un certain Karmitz, qui est producteur et réalisateur de cinéma. D'ailleurs, on entre dans l'exposition par un rideau sur lequel est projeté un film. C'est une installation de Boltanski. Et derrière ce film, on trouve quoi ? Eh bien, à peu près tout. On se croirait chez Abby Warburg. Ça va des statuettes précolombiennes aux ballons gonflés en forme de ciseaux d'Annette Messager, en passant par Dubuffet. D'ailleurs, une partie de sa production qu'on connaît beaucoup moins, très terrestre, très organique. Mais dans cette collection, il y a tout de même une dominante. C'est la photographie, qui occupe la part la plus importante. Des centaines de clichés en noir et blanc. J'ai particulièrement retenu Michael Ackerman. C'est un photographe américain qui saisit comme ça des visages fantomatiques qui passent très brièvement dans un paysage urbain. C'est des gestes un peu pris à la dérobée dans les années SIDA et tout est empreint d'une certaine grâce. Enfin, il y a définitivement quelque chose de la fragilité et du tragique qui semble animer ce Karmitz. D'ailleurs, on peut voir dans l'exposition son adaptation filmique de comédie de Beckett, trois personnages dans des jarres, coincés, chacun dans leur monologue, et Karmitz joue avec leur voix, les accélère ou baisse le son, et il parvient à rendre le rythme terrifiant comme ça de la pièce de Beckett. Enfin, beaucoup de surprises dans cette collection, Brancusi, Maneret, Fromanger. Enfin, je la conseille vivement, c'est jusqu'en janvier 2018, et c'est au bord du port de l'Arsenal.
Bon, assez parlé de Paris.
Assez parlé de Paris. Parlons maintenant des expositions à Lyon. Tu en as vu pendant les vacances ?
Mais oui, et il est vraiment temps de parler de notre cher Lyon, parce que c'est Paris qui monopolise notre JRA et ça commence à bien faire. Je plaisante. Il faut savoir qu'il est aussi agréable de flâner ici que dans la capitale. Et chers auditeurs, amusez-vous donc à escalader les pentes de la Croix-Rousse. C'est bien pour la santé, mais il y a surtout plein de mignons petits fanions suspendus dans la montée au joli pavé, dont j'ai oublié le nom, pardon. Amateur de photos, vous tomberez peut-être sur une galerie sympathique.
Oui, j'ai l'impression que les petites galeries d'art, c'est un peu comme la salle sur demande dans Harry Potter.
Mais oui, et d'ailleurs, on va clasher toutes les personnes qui ne connaissent pas la salle sur demande. Oui, alors elle nous échappe la plupart du temps, mais quand nous sommes bien à l'affût et que nous prions pour tomber sur un havre sympathique, tadam, une galerie d'art apparaît. Et quand je découvris Regard Sud, non, je n'étais pas poursuivie par une meute de chiens sauvages ni de paparazzi en furie, ben, ça peut arriver à tout le monde, mais par une pluie diluvienne. Bref, j'entrais. Je croyais que c'était des tableaux, un peu du style Hopper ou David Hockney, qui m'aguichaient derrière les vitres bien propres. Images figées, personnages quasi inexpressifs quand on voit leur visage, car ça n'arrive pas beaucoup, décors urbains comme givrés, à l'exception d'une plage. Je m'approche. Stupeur. Ce sont des photographies. Hicham Gardaf nous offre des clichés de la banlieue marocaine, en fait. Recherche à laquelle il consacra ses trois dernières années, et avec succès. En effet, c'est d'abord dans le cadre de la Biennale de Lyon 2017 qu'il est exposé ici, remarqué pour ses travaux. Et Regard Sud, c'est une galerie qui promeut des personnalités, internationales ou émergentes, du Maghreb et du Moyen-Orient. Voilà donc pourquoi les photos recélaient autant de voiles et de longues étoffes flottantes.
Et alors pourquoi tu disais qu'on ne voyait pas toujours le visage des personnages ? Ils sont coupés ? Ils sont de dos ? Comment ils sont représentés ?
Alors non, ils ne sont pas coupés parce que le cadrage est en général en pied, mais ils sont effectivement de dos. Bon, je ne vais pas partir dans des références à la Caspar David Friedrich, mais c'est quand même très intéressant de voir les échos qui s'instaurent en fait entre le nord et le sud, la peinture et la photo. Et le spectateur entre d'autant plus facilement dans la composition qu'il regarde un regardeur et son œil se focalise dès lors davantage sur le décor, sur la scène que sur les détails d'un visage.
D'ailleurs, le titre de l'exposition est assez évocateur, non ?
Oui, clairement, c'est le cadre qui intéresse Hicham Gardaf dans « Quelle architecture pour la banlieue ? Extrait d'intersection ». Ruines sur d'anciens parkings à faire saliver d'autres romantiques, je pense ici à Robert Hubert, ou les passionnés d'urbex, café marocain à l'ambiance beurre foncé, plage déserte avec une vaste ligne d'horizon, ou au contraire, gros plan sur de petits pans de murs non jaunes mais rouges, encore une private joke pour ceux qui connaissent le drame de Bergotte. Et il y en a pour tous les goûts. On découvre ainsi de multiples facettes d'une même zone. C'est un travail de photographe-géographe qui me fait rebondir, si je puis me le permettre, sur une annonce express.
Ah, et quelle est-elle ?
Eh bien, je signale d'abord que l'exposition Hicham Gardaf est en place jusqu'au 18 novembre, et vraiment, c'est pas mal du tout. Et en plus, il y a un petit livret à l'intérieur qui explique son travail. Et puis, bah, c'est pas long du tout, et c'est tout près de café fort charmant. Bon, l'autre exposition, à saveur banlieusarde, c'est celle de l'association Art Image, créée en 97, je crois. En fait, je sirotais un café allongé avec deux amis près de Pompidou. Alors, pas le monsieur ni son fantôme, hein, mais le machin géant très coloré qui vend des rhinocéros rouges, quand l'une d'entre elles sort son téléphone et soupire avec agacement. Que se passe-t-il ? Eh bien, son coéquipier l'insupporte. Son coéquipier ? Ben oui, cela fait depuis un an qu'il travaille sur la scénographie d'un événement photographique. Alors, je sors tout de suite mon carnet et mon plume en dépit d'un vent frisqué et dissuasif. J'en parlerai à la radio. J'espère qu'elle m'écoute. Alors voilà, Léonore, étudiante au Louvre, participe au festival Territoire en images organisé à l'Institut géographique de Paris. Je fais un petit clin d'œil à certains géographes par ici. Et c'est très sympathique. Il y a des photographes qui vont exposer des projets sur la représentation de la ville et de sa couronne urbaine, pas royale quand même. Et à la fin du festival, qui est d'une brièveté malheureuse, on peut voter pour notre projet préféré. Non, ne me soupçonnez pas de corruption, je ne pourrais pas voter pour Léonore, puisqu'elle est scénographe, et quoique réelle amatrice d'art, pas encore photographe-géographe. Mais j'espère que ça ne saurait tarder. Ah, quand la géographie se pique d'art et se prend à la poésie urbaine, et qu'est-ce qui va nous rester à nous, les plumitives et artistes en tout genre ?
Voilà, et l'expo se passe entre le 23 et le 25 novembre. Soyez nombreux et ne faites pas comme Sarah, soutenez un petit peu la géo. J'aimerais quant à moi glisser une petite annonce. Samedi, le MAMC, le Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne, rouvre ses portes et pas pour n'importe qui. C'est Anish Kapoor qui sera exposé dans la grande salle centrale. Ce sera aussi les 30 ans du musée qui propose alors une sélection de sa collection sous un même fil narratif. Considérer le monde, ses utopies et ses tragédies du 16e au 21e siècle. Un très vaste programme qu'on a hâte de découvrir.
Bon, alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Elle est un peu morte depuis un moment, mais c'est pas grave, on va quand même célébrer son anniversaire de naissance. C'est une réalisatrice, actrice et inventrice ou inventeuse, je sais plus trop en ce moment, d'origine autrichienne et qui a émigré aux États-Unis. Alors, vous pouvez essayer de deviner, chers auditeurs, ce sera très rigolo. Elle porte presque le même nom que la petite fille avec son gros chien très fluffy dans un mignon dessin animé. Et plus clairement, c'est une jolie dame née un 9 novembre en 1914, qui a inventé la technique Lamar, un système de codage de transmission ou de spectre, moi je sais pas très bien, qui nous aide bien dans la téléphonie et Internet. Bon alors vous avez trouvé ? Vous avez tous les indices. C'est Heidi Lamar, dont la filmographie, disponible sur Internet, est assez étendue. Bonne soirée à tous et à toutes, et soufflons les bougies pour la pauvre Heidi, qui a déjà rendu son dernier souffle en janvier 2000.
Eh bien dis donc, particulièrement joyeuse pour cette pauvre Heidi qui est, morte en 2000, mais malgré tout souhaitons lui un joyeux anniversaire. Oula, c'est dur de redémarrer après 16 minutes de ce florissant journal de la culture. Et la culture se poursuit avec la culture scientifique. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Rémi.